Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, les bulletineuses Yasmine Abdel-Fadel et Sophie Villeneuve remettent leur bonnet d'âne. Un bonnet d'âne notamment à Éric Kerr, leader parlementaire de la CAQ, pour ses réponses dégoulinantes de partisanerie. Elle trouve aussi que Dominique Anglade ne devrait pas se forcer pour intégrer à tout prix des métaphores de hockey dans ses introductions. Ça sonne un peu faux. Leurs méritages sont remis entre autres à Greg Kelly pour des questions sur les Autochtones et à François Bonnardel, entre autres, pour son efficacité en chambre. Mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue, des barbus et aussi des chevelus.
C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas.
C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas.
Y'a sa barbe qui pique un peu, y'a des grosses taches sur son bleu. Mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains.
Mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains.
Mais bonjour Thomas Mulcair.
Hey, salut Antoine.
Notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la Joute et chroniqueur au journal. Et ce matin, tu nous parles de l'intégrité, angle mort de François Legault. Pourquoi angle mort? Pourquoi intégrité?
J'utilise cette expression-là, tout le monde le comprend. Lorsqu'on avait nos cours de conduite, notre instructeur nous disait, ben, il y a ce que tu vois dans le rétroviseur, il y a ce que tu vois dans le miroir d'à côté, mais entre les deux, il y a une partie que tu vois pas. Mm-hmm. Legault est un politicien extraordinaire. OK? Il est honnêtement exceptionnel. Un de ses plus grands atouts, c'est la capacité de parler avec monsieur et madame tout le monde.
Mm-hmm.
C'est un don de communication, mais c'est aussi le reflet de ses propres racines plutôt modestes, je dirais. Et donc, ce qui s'est passé dans le dossier de monsieur Fitzgibbon risque de diminuer, d'amenuiser son appui avec monsieur et madame tout le monde ordinaire qui vote pour lui. Je m'explique. Fitzgibbon est un homme d'affaires, pas de cauchemar taillé dans ses propres affaires avant de rentrer au Conseil des ministres, mais en prêtant serment, il a dit qu'il était là pour appliquer les lois et les respecter lui-même. Or, il y a une loi, la plus essentielle, votée unanimement par l'Assemblée nationale, qui est le code d'éthique. Et ce code d'éthique précise sans embâge, sans enfuriture, un ministre ne peut pas avoir un intérêt dans une compagnie qui traite avec le gouvernement, point à la ligne.
Ouais.
M. Fitzgibbon s'est fait dire trois fois par le commissaire à l'éthique qu'il était en porte-à-faux avec cette règle fondamentale. Au troisième coup, M. Legault disait, mais c'est pas juste, c'est la loi qui est fautive. Comme Richard Martineau le dit ce matin, essaie ça avec un policier la prochaine fois. Dis-lui que tu trouves que 100 km à l'heure, c'est juste pas raisonnable avec une voiture comme la tienne, mm-hmm. et tu préfères rouler à 130 et regarde le résultat. Donc, c'est une attitude de tous mes dieux. Hein? Moi,
ça.
Je suis riche. Mm. Mon chum Fitzgibbon est riche. Il risque de perdre 1 million. Et en termes de communication, une très rare erreur de Legault, parce qu'il est très, très, très bon en communication. Mais ce truc de l'homme à 1 million va coller à la peau de la CAQ comme un gouvernement qui n'est pas là pour le monde ordinaire, mais qui est là pour défendre l'indéfendable, en l'occurrence.
Mais
un gars comme Fitzgibbon, oui.
Est-ce qu'on n'a pas remarqué dans les élections en général que les gens dits ordinaires ont une fascination aussi pour l'homme riche? Et prenons Trump aux États-Unis. L'homme riche passe bien. Les pauvres votent pour les riches. C'est bien démontré en sciences politiques. Est-ce qu'il n'y a pas en même temps une manière de dire, écoutez, moi, j'ai compris des choses que vous n'avez pas compris. Si vous me permettez d'être au pouvoir, vous allez voir, le Québec va aller mieux. Le Québec aurait été mieux même s'il y avait eu plus d'entrepreneurs. Il nous a dit ça hier à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une manière d'aller courtiser l'homme simple?
Oui, tout à fait. Mais si la CAQ, et c'est une prouesse, hein, qu'il faut reconnaître la prouesse de François Legault. Il a fondé un parti, Coalition Avenir Québec.
Mm-hmm.
Il a fait ce qu'on appelle dans le jargon du droit commercial, il a fait un reverse takeover de l'Action démocratique du Québec, de Mario Dumont, mais qui n'était plus là. On était rendu avec Gérard Deltel, puis il a juste absorbé. Il y avait quand même des forces vives là-dedans, et des députés. Donc, il a réussi une prouesse, puis cette prouesse, il risque de le perdre s'il ne comprend pas que la CAQ a gagné en montrant l'incurie, l'incompétence et voir les coup fourré côté éthique et intégrité des libéraux. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas dit sur Sam Ahmad.
Oui, Sam je comprends. Été, mais justement,
Sam Ahmad n'a jamais été blâmé par, par la commissaire à l'éthique.
Elle n'avait pas des mots doux pour lui quand même. Mais
je comprends, mais oui. Ça ne se compare pas avec ce qui s'est passé avec Fitzgibbon.
Oui, mais ça ne se compare pas non plus avec Pierre Paradis. Ça ne se compare pas non plus avec Pierre Paradis.
Non, ça c'est sûr, ça, le truc de Paradis.
Parce que Paradis, c'est de tout détournement de fonds de l'Assemblée nationale, c'est un peu ça.
Oui.
Alors que là, il n'y a pas vraiment de malversation. Il est en contravention du code, mais il n'y a pas de malversation. Il n'y a pas eu de malversation de la part de Fitzgibbon. Ça, on peut l'admettre, non?
Il a enfreint la loi. Point.
Oui, il a enfreint la loi.
La loi dit que si tes ministres n'ont pas le droit d'avoir des intérêts dans une compagnie qui traite avec le gouvernement, il a refusé de vendre ces actions-là et le Legault l'a défendu en disant « Mais le pauvre, il faut le mettre entre guillemets, il va perdre 1 million. Mm-hmm. » C'était à lui, à Pierre Fitzgibbon, d'une manière avertie, il veut être député et ministre, il faut croire qu'il sait lire. C'était à lui de s'informer. Antoine, je vais te donner un exemple.
Oui.
Quand moi, j'ai été élu pour la troisième fois en 2003, et je m'apprêtais à être nommé ministre, moi, j'avais vu dans la liste que tu n'avais pas le droit de siéger au conseil d'administration d'une personne morale. Moi, mm-hmm. j'avais, avec mes yeux d'avocat, j'avais dit, bon, des compagnies et tout ça. Et quelqu'un m'a averti, non, c'est même les charités. Donc, moi, j'étais sur le conseil d'administration de quelques œuvres de charité, mm-hmm. Des œuvres de bienfaisance, des organismes à but non lucratif. Et j'ai dû cavaler pour avoir des confirmations écrites qu'ils avaient bien reçu ma démission avant mon assermentation. Ce sont les règles.
Oui.
J'aurais pu dire oui, mais qu'est-ce que ça change si je suis sur le conseil d'administration d'Opération Enfant Soleil, qui était ou l'école orale pour les sourds de Montréal? Mais la réponse aurait été la loi, c'est la loi. C'est la même chose pour Fitzgibbon. Tu jures que tu vas appliquer la loi. La moindre chose, c'est de le respecter toi-même.
Mm-hmm. Mais que penses-tu de mon argument quand même? Je sens pas que tu as vraiment répondu que quand on se positionne comme un homme riche, un entrepreneur, on a du succès auprès de la classe moyenne. Parce que c'est ce que l'homme de la classe moyenne veut devenir d'une certaine façon. Et
Robert Bourassa jouait là-dessus. Lui-même n'avait pas beaucoup d'argent, mais il était marié dans une des familles les plus riches au Québec.
C'est ça.
Et donc, les gens, effectivement, voyaient, lui, il doit être bien. Il a accès à toute cette richesse-là. Ça lui appartient.
Il a réussi d'une certaine façon.
Il y a un peu de ça. Mais je crois qu'à la base, et c'est pour ça que je suis allé sur la question de l'éthique, des libéraux qui ont été battus par la CAQ largement à cause de l'ombre des questions d'intégrité que François Legault, Clair et compagnie ont réussi, avec Kerr, ont réussi à faire surplomber l'ensemble de l'œuvre des libéraux, peu importe ce qu'ils disaient. Chaque phrase pendant la campagne électorale, un peu à la Trump, parce que Trump disait toujours « Crooked Hillary »,« Crooked Hillary
oui. ».
Legault disait toujours « Les libéraux corrompus, les libéraux corrompus mm-hmm. ». Ils ont réussi leur coup. Donc, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que moi, si Legault avait changé sa loi d'une manière ouverte, en plaidant ça devant l'Assemblée nationale, puis les gens avaient été d'accord, il aurait pu le faire. Mm-hmm. Il avait la possibilité de le faire. Mais à la place, il a dit « Moi, j'aime pas cette loi-là, elle est vétuste, elle a été mal rédigée, elle tient pas assez compte des gens riches et célèbres, et je vais pas l'appliquer. » Ça qu'il n'a pas le droit de faire.
Es-tu d'accord sur le fond que ça peut être difficile pour quelqu'un qui a des actions dans une société privée de les vendre? Est-ce que c'est pas plus difficile, effectivement, qu'une personne qui a des actions en bourse, qui appelle son courtier, qui dit...
Oui, c'est tout ça. À fait,
est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un changement dans le code là-dessus?
Mais il n'avait qu'à les mettre dans une fiducie sans droit de regard.
Ouais.
Il est assez astucieux pour avoir des actions dans des trucs privés qui sont basés sur dans des paradis fiscaux. Dis-moi pas qu'il n'est pas assez futé. Il voulait les garder.
Voilà.
Et ça, c'est cet entêtement qui a rejailli très négativement sur Legault, parce que Legault prenait la part de son chum. Puis, comme dit la phrase célèbre, un chum, c'est un chum.
Mm-hmm. Toi qui as recruté des candidats, est-ce que c'est effectivement difficile d'aller chercher des entrepreneurs et est-ce que ça en prendrait beaucoup plus en politique? C'était un peu le débat là, à l'Assemblée nationale hier.
Moi, je vais te dire qu'en 2015, donc mon élection où j'étais chef de l'opposition, où on aspirait au pouvoir, je me souviens, il fallait absolument que je recrute quelqu'un que je puisse présenter comme un potentiel ministre des Finances. Et on avait recruté un ancien ministre des Finances de la Saskatchewan, qui était un homme d'affaires qui allait très bien à Toronto, qui a accepté de se présenter pour nous. Mais c'était toute une opération charme pour l'embarquer. Et c'est très difficile d'interrompre sa carrière. Et les gens qui veulent se lancer en politique, qui sont en affaires, c'est plutôt rare. Puis je vais te dire, le cas de Bill Morneau n'est pas apte à encourager les gens d'embarquer en politique. Parce que même Morneau avait son explication. Mais à un moment donné, les règles sont claires. Tu dois respecter les règles, que tu sois le plus important et influent ministre ou que tu sois un simple député d'arrière-bas.
Mm-hmm, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est pas facile là, pour l'entrepreneur. Mais est-ce que ça en prendrait plus? C'est ma deuxième question.
Ben, écoute, moi, je me souviens de l'État Provigo. de temps en temps, les gouvernements, les partis nous annoncent le deuxième arrivé du sauveur parce qu'on a tel ou tel homme d'affaires. Très souvent, les gens d'affaires sont très impatients avec les règles. J'ai eu des échos des gens autour de Fitzgibbon que c'était un taureau dans un magasin de verre. Et ça, c'est correct jusqu'à un certain point. Mais les garde-fous sont là pour protéger la voie publique et l'intérêt du public doit primer par-dessus les intérêts privés. Mm-hmm. Et tu ne peux pas. Et lui, il gérait comme si c'était sa cabane à lui.
C'est
et
ça.
Malheureusement, c'est pas ça. Ça appartient au public. Ça, c'est une grosse différence.
Est-ce qu'il va revenir, donc, selon toi?
Oui,
Oh, excuse-moi, je te laisse terminer. Oui.
Moi, je pense que c'est rendu très difficile pour Legault. Parce que, mettons qu'il fait ça pendant l'été. Il vend ses actions. On tombe dans une élection générale fédérale. Est-ce qu'il peut essayer de glisser le retour de Fitzgibbon là-dedans, qui t'arrête? Mais s'il y a quoi que ce soit autour de lui, parce que n'oublie pas, là, il ménage pas le monde, là. Il prend quelqu'un que lui connaît, il met en charge de telle affaire, puis lui paye 1 million par année, tu sais, il va pas avec le dos de la cuillère.
Et là, ce matin, nous, au journal, on révèle qu'il a mangé avec son mandataire, avec qui il n'est pas censé avoir de contact.
Non, mais ça va continuer, ça. Donc, j'ai l'impression que c'est la supplice de la goutte pour Legault. Legault n'a jamais fermé catégoriquement, même là, parce qu'il continuait. Hier, le comportement de Legault à la période des questions était étonnant. Il a l'air fatigué, ça se comprend.
Oui.
Mais cette idée de tirer sur tout ce qui bouge, je m'excuse là, mais c'est sûr qu'on veut que les hommes et les femmes en politique, tout le monde soit sur un pied d'égalité. Ça, mais ce ton baveux qu'il avait hier,
oui,
comme il est en glade, moi, je pense que ça ne l'aide pas. Ça va revenir le hanter parce que les gens savent décoder ce qu'il est en train de faire là. Sa manière de la... Hey, Dominique Anglade, ingénieur, MBA, elle a travaillé pour McKinsey, elle a travaillé pour les plus grosses compagnies privées au Canada. Est-ce qu'on peut arrêter de la prendre de haut?
Oui.
Que parce que toi, tu as passé une couple d'années chez Air Transat, que tu es le méga homme d'affaires, puis elle, c'est un deux de pique. Elle a travaillé pour des compagnies autrement plus importantes.
Et elle a fait une sortie hier, là, Tom. Là, on n'en a pas beaucoup parlé. Moi, j'étais là, j'étais dans les tribunes. Et c'était formidable sur les raccourcis hallucinants du premier ministre. C'est rare que j'ai vu Dominique Anglade être aussi, comment dire, vrai et authentique dans sa colère. Parce que souvent, elle a l'air feinte. Ça a l'air fin un peu quand elle se fâche.
Oui, puis c'est des choses qui sont préparées par du staff et tout ça.
C'est ça.
Et quand ça sort de l'intérieur, ça, c'est imbattable.
Exact.
Et ça perce l'écran. Mais j'ai bien hâte, hein, une fois la pandémie estompée, là, je vais venir t'achaler. On va enregistrer le dialogue des barbus à Québec. Je vais venir une fois. Parce que regarde l'été qu'on va avoir. Mi-août, déclenchement de l'élection fédérale pour troisième semaine de septembre à peu près. Mais là, on va tomber dans une dernière année d'Assemblée nationale qui va être très importante, c'est l'année préélectorale. Là, ça va être l'occasion à Dominique Anglade de se définir avant que la CAQ puisse la définir. Puis, comme tu viens de voir hier, là, il y a du stock, là. Puis, il y a du verbe, mais Legault a tellement dominé pendant la pandémie que c'est et de la même manière que Trudeau a dominé en Ottawa, pauvre O'Toole et pauvre Anglade. Là, c'est pas une bataille égale. C'est comme jouer un match de hockey avec le patinoire penché à 45 degrés vers toi.
Et on se laisse pousser les cheveux, puis ça sera le dialogue des chevelus. Moi, c'est déjà pas mal long, mais je suis pas encore capable de me faire une queue de cheval. À la fin de l'été, peut-être.
J'ai fait un reveal à TTV Questions avec mon ami.
Je sais, tu nous en as parlé la semaine passée.
C'est très long.
Salut Tom, merci beaucoup.
Hey, salut l'autre barbu, bonne fin de semaine.
Bonne semaine, salut.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
Qui c'est qui est très gentil? Très gentil. Qui c'est qui est très méchant?
Très méchant.
Qui a tous les premiers prix?
Très gentil.
Qui roupille au dernier rang?
Très méchant.
C'est l'heure des bulletineuses de la colline. Bulletineuses, car avec elles, tous les vendredis, nous remplissons le bulletin de nos élèves de la colline. On remet nos bonnets d'âne et nos méritas. On est alternativement gentil et méchant. Et bonjour Sophie et Yasmine.
Bonjour Antoine.
Bonjour Antoine.
Alors Sophie Villeneuve est maintenant présidente de Article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est consultante en communication et relations gouvernementales. Mais c'est le moment d'écouter Yves Bolduc, l'ancien ministre de la Santé.
C'est Yasmine qui décide.
Vu que c'est Yasmine qui décide, c'est Yasmine qui commence avec un méritas. Tu remets ton méritas à qui, Yasmine?
C'est Greg Kelly qui s'est levé cette semaine suite à l'horrible annonce de la découverte des restants de 215 enfants sous un pensionnat autochtone à Kamloops. Greg Kelly, député de Jacques-Cartier, s'est levé pour poser une question au gouvernement du Québec pour leur dire: qu'allons-nous faire, nous, pour nous assurer que les pensionnats qu'il y avait au Québec, ben les sites allaient être protégés? Quelle va être la contribution du gouvernement du Québec? C'était senti, il n'y avait pas de partisanerie, puis c'était très à propos.
Très bien.
Ça, les réponses étaient quand même assez senties par rapport à ça aussi. Cette semaine, on a quand même assumé. Tu sais, moi, j'ai bien aimé qu'on ne joue pas à l'autruche puis qu'on n'ait pas la tête dans le sable en disant « Non, 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 au Québec, c'est jamais arrivé. » Non, on a eu l'humilité de dire qu'il est possible qu'on fasse de telles découvertes et ce serait l'horreur, mais ça se peut. Puis, tu sais, moi, cette vérité-là, je trouve qu'elle est essentielle à entendre.
Oui, puis le ministre est toujours éloquent et semble sensible. Yann Lafrenière, il mériterait un méritas.
Un méritas également.
Effectivement. Oui. Sophie, quand même, tu t'en remets un méritas, mais toi, un méritas boomerang à Mathieu Lacombe.
Oui. Mathieu Lacombe, qui en réponse à des questions de Marc Tanguay sur le salaire des éducatrices puis la problématique de rétention puis des éducatrices qui veulent quitter. Bon, Mathieu Lacombe, il est pas parfait dans ce dossier-là, mais on sent qu'il tire, qu'il travaille fort puis qu'il essaie fortement de faire avancer les choses. Puis Marc Tanguay, s'est levé, il a été très arrogant par rapport au salaire des éducatrices, mais là, parlons un peu, là. Il faut se rappeler encore une fois que s'il y a autant de retard par rapport au salaire des éducatrices, c'est que pendant 15 ans, il n'y a rien qui s'est fait, là.
Oui. Il y a comme un bonnet d'âne discret dans ce que tu entends, le méritage ce que tu donnes. Et le bonnet d'âne à Marc Tanguay.
Il y a une porte.
Mais c'est pas grave, parce que moi, je lui redonne un méritage juste après. C'est qu'on va équilibrer ça.
OK, oui. Donc, bonnet d'âne. Yasmine, toi, tu le remets à Éric Kerr, le bonnet d'âne, le premier?
Trop partisan. Il va trop loin. Il est trop arrogant quand il répond en chambre. Tu sais, cette semaine, il devait se lever pour défendre, défendre pourquoi le gouvernement va voter contre le rapport de la commissaire à l'éthique Ariane Mignolet qui a mené à la démission du ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Et Éric Kerr, là, plutôt que de faire passer ça, c'est passer ça sur le tapis, là, qu'on n'en entend pas parler, ben non, lui, il va sur les petits amis libéraux, puis Franco Fava, puis Bart, puis l'UPAC qui débarque au PLQ. Honnêtement, c'est-tu vraiment ça comment tu t'es préparé en période de questions, Éric Kerr? Ça, c'est pas fort. Je pense qu'il aurait fallu s'en tenir aux lignes habituelles. Éric Kerr fait passer Simon Jolin Parette pour un leader très doux et très sage.
Si tu me permets d'ajouter, il fait passer même Jean-Marc Fournier pour un gars, un leader sympathique. On se souvient Jean-Marc Fournier qui était assez détestable aussi, qui savait l'être. Mais là, Éric Kerr, c'est vraiment... il a la palme de l'homme le plus détestable, je crois, qui a occupé ce poste-là de leader du gouvernement. Mais c'était l'équipe B, encore une fois, ce matin, vendredi. J'espère que ça achève cette époque.
Ouais, vivement un déconfinement de l'Assemblée nationale en même temps qu'un déconfinement des écoles. Là, ramenez-nous tous les parlementaires, c'est insupportable.
Écoute. Sophie, à qui tu remets ton bonnet d'âne, métaphore de hockey mal utilisée?
Exact. Il y a tellement eu de métaphores de hockey un peu étranges, de partir de la gageure entre Doug Ford et François Legault pour en finir sur le troisième lien. Là, à vouloir venir intéresser les amateurs de hockey et faire du capital de sympathie sur la victoire en première ronde du Canadien pour venir planter nos sujets, c'est pas bon, là. Et essayez pas, là, Dominique Anglade, là, c'est pas bon, c'est pas un bon alignement, ça lui va pas bien.
Elle s'y intéresse pas pour vrai non plus, c'est forcé.
Non, c'est ça, exact, ça paraît, c'est forcé, c'est pas bon.
Ça me fait penser, c'est très risqué ça d'utiliser le hockey, je me souviendrai toujours, au début des années 2000, quand Jean Charest arrive au pouvoir, il met en pleine éliminatoire, il met le gilet des Canadiens, les Canadiens se sont mis à perdre à ce moment-là, à partir de ce moment-là, et là tout le monde riait de Jean Charest, donc ça peut être un boomerang aussi.
Vous avez vu Valérie Plante qui est allée tweeter pour féliciter les Canadiens de leur victoire tout de suite après la partie alors qu'il venait d'y avoir une mise en échec qui avait pratiquement
tout le soir. C'est tellement déconnecté. Arrêtez, la démagogie de la palette, là. Comment ça suffit?
Non, c'est ça.
Méritance numéro 2 maintenant, c'est au tour de Yasmine.
Ben, on vient de parler de boomerang, mais tu sais, tout à l'heure, il y a Sophie qui a donné un bonnet d'âne. Ben, moi, j'ai donné un méritage.
À
un
qui?
Méritage pour vraiment à Marc Tanguay, puis à la question d'aujourd'hui. On se rappelle, on en parlait tout à l'heure, Éric Kerr qui se lève, puis que. Il attaque tout le monde, là. Tout le monde, c'est des pas bons, puis vous avez pas vous avez pas d'affaires à nous dire quoi faire avec le rapport de la commissaire à l'éthique. Et là, il y a Marc Tanguay qui a eu la présence d'esprit de rappeler qu'Éric Kerr lui-même avait touché un prêt d'un maire de sa circonscription. Donc, en matière d'éthique, là, s'il y a quelqu'un qui s'est disqualifié, c'est bien Éric Kerr. Donc, jouez-le, je le mets entre guillemets, le goul. Ça va y retomber dessus.
Le fier à bras. Le fier à bras, Yasmine.
Le fier à bras. Et ça l'a un peu déstabilisé, on le sait, parce qu'il l'a repris en complémentaire. Il a dit « Ah, ben là, c'est ça, c'est rendu qu'on m'attaque moi. » Fait que méritage pour Marc Tanguay qui a su déstabiliser Éric Kerr.
Il faut souligner qu'Éric Kerr n'avait pas été blâmé quand même par la commissaire à l'éthique cette question-là. Il y a eu une enquête en bonne et due forme. Et on redevient gentil. C'est au tour de Sophie de donner son méritance numéro 2.
C'est presque un méritance plaisir coupable. C'est comme un bonnet d'âme et un méritance à la fois. Là. Mais moi, je dois dire que je redécouvre un plaisir presque partisan à avoir une joute parlementaire où on a des invectives de part et d'autre. Bon, dans l'absolu, on veut pas que ce soit de la chicane, on veut que ce soit constructif, là. Mais les échanges cette semaine d'Éric Kerr, entre Éric Kerr et André Fortin, relativement au ministre Fitzgibbon, justement toutes les questions d'éthique entourant sa prise de participation dans des entreprises, ça a donné lieu à de bons souvenirs d'échanges épiques dans le Salon Bleu. Là. Alors, on se relance, on s'investit.
Vos bonnets d'âne et vos méritances aujourd'hui, les filles, ça me fait penser à de la crème glacée napolitaine. Il y a comme un, il y a comme un mélange de...
Plus on mange, plus c'est pareil.
Non, mais il y a comme un mélange aussi de couleurs. Là. Je ne sais plus qu'est-ce qui est bonnet d'âne, qu'est-ce qui est méritance. Parce qu'il y a des affaires qu'on aime dans la joute aussi, c'est bien dit.
Oui,
voilà.
Je suis mitigée par rapport à tout ça. J'ai quand même un certain plaisir à aller voir se répondre de cette façon-là.
Mais parce qu'on aime la joute, oui, je comprends.
Ben oui.
Bon, soyons méchants un petit peu. Bonnet d'âne numéro 2, Yasmine. Fusion PLQ-QS.
Ben oui, là, je sais pas c'est quoi c'est la nouvelle ligne du gouvernement envers le Parti libéral du Québec, là, où on parle de... le Parti libéral va bientôt fusionner avec Québec solidaire. On voit que le rapprochement est de plus en plus elle se fait de plus en plus. Tu sais, il y a le premier ministre qui en a parlé en début de semaine. Il y a aussi la vice-première ministre qui disait qu'on ne savait pas que la fusion était si avancée que ça. Franchement, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est pas crédible. Je comprends qu'on commence à être beaucoup à droite là, avec l'arrivée d'Éric Duhem. On essaie de pousser un peu le parti libéral vers la gauche.
Je trouve que c'est assez efficace pour... Je trouve ça assez efficace, moi, pour épingler le Parti libéral du Québec, qui est comme obligé de faire un virage à gauche, qui se dit progressiste, puis qui a des positions là, sur plusieurs sujets, même sur le troisième lien, qui ressemble à celle de QS. Moi, sans donner un méritas, je trouve qu'il y a quand même une sorte d'efficacité rhétorique.
Je trouve ça. Tu sais, il y a personne qui va croire à ça, que le Parti libéral se rapproche de Québec solidaire, franchement.
Ouais, mais en même temps, Yasmine, je suis obligée d'intervenir à ce moment-ci, là. Je trouve, moi, des différences importantes entre les postures qui ont été prises sur les grands dossiers cette session-ci par QS et par les libéraux. Je veux dire, puis les libéraux, on dirait qu'ils veulent tracer une ligne à l'encre tellement noire entre les anciennes aires puis l'aire d'aujourd'hui qui se colle sur ce qui pogne auprès de clientèles plus jeunes. C'est beaucoup la clientèle de QS. Moi, effectivement, je trouve que le gouvernement a raison de taper sur ce clou-là.
Sophie, tu gardes la parole parce que c'est à toi de donner ton bonnet d'âne numéro 2, jeu de mots douteux.
Ouais, on revient dans la crème glacée napolitaine et il nous ramène encore Marc Tanguay, là, mais jeu de mots douteux. Hey, là, cette semaine, deux fois pendant la même question. D'abord, on nous parle de juste une fausse chalet qui fait référence à une vidéo assez virale sur Internet où un prédateur sexuel finissait par admettre qu'il n'avait jamais touché à ses petits-enfants. Sauf une fois au chalet. Fait que là, utiliser ça déjà à l'Assemblée nationale, ça n'avait pas de bon sens, là, tu sais. Et, tu sais, de revenir. En fait, ça avait l'air, là, cette question-là, elle avait l'air d'un défi lancé par des attachés politiques dans l'antichambre avant de rentrer à la période de questions. Ils se sont tous regardés en se disant, hey, c'est une bonne idée, là.
Oui, c'est ça. Méritas numéro 3 maintenant. Yasmine Bonnardel, 4.0.
Oui, je veux remettre un méritage à Bonnardel 4.0. Et Bonnardel 4.0 fait référence au ministre des Transports, François Bonnardel. Mais c'est pas le même gars qu'on avait à l'opposition, tant à la VQ qu'à la CAQ, qui était hyper partisan, hyper craqué là, en période de questions. Là, on a le droit à un ministre qui est posé, qui connaît très bien ses dossiers, qui ne cherche pas à avoir la réponse là, à la Éric Kerr, là, qui va faire... Il va faire rire ses collègues. J'aime beaucoup François Bonnardel, version 4.0. Les dossiers qu'il défend ne sont pas des dossiers faciles, notamment le fameux troisième. Mais il le fait correctement. Mmh. Et j'ai aimé particulièrement sa réponse cette semaine à Joël Arsenault qui lui demandait pourquoi le ministre ne souhaite pas créer une agence de transport indépendante. Puis il a eu la présence d'esprit, tellement qu'il connaît bien ses dossiers, de dire « Hey, vous, là, au PQ, vous l'avez pas vous vouliez pas faire ça quand Sylvain Gaudreau était au transport? Pourquoi vous l'avez pas fait pendant les 18 mois que vous étiez au pouvoir? »
C'est pas très long, 18 mois. Ça aurait été ça, la réponse.
Oui,
non,
mais...
Le projet n'avait même pas été rappelé.
Bonnardel a ajouté aussi « Ça n'a plus jamais été dans le programme du parti
exactement.
Par après. »
Ah, c'est vrai, il avait raison.
Méritance numéro 3 maintenant de Sophie. Questionner la vision de Dominique Anglade.
Oui, j'ai beaucoup critiqué Dominique Anglade au cours de la session. J'ai toujours trouvé qu'elle a de la misère à s'ajuster et à trouver son ton. Puis lors de la période de questions d'hier, j'ai trouvé que c'était opportun. Elle est venue ouvrir. Bon, on venait d'être mis au courant de la démission du ministre Fitzgibbon à l'économie. Puis on est dans une période de relance économique. Puis Dominique Anglade a été ministre de l'économie. Là. Donc, elle est dans une posture pour venir parler de ces dossiers-là. Elle les connaît. Puis elle a vraiment questionné le premier ministre en disant comment on peut venir réfléchir à une vision en n'ayant plus de ministre de l'économie. Puis elle est allée de la bonne façon, je trouve.
Mm-hmm. Oui, et c'est dans cette intervention-là où elle a dit c'est facile de dire les mots durables, les mots économie circulaire et tout ça. Encore faut-il faire des gestes, finalement, en ce sens-là, hein, c'est ça?
Oui, exactement, et le faire correctement.
Puis, en même temps, moi, je l'écoutais, puis je trouve que souvent Dominique Anglade est dans justement les mots-clés. Par exemple, elle se dit porte-parole de la Charte des régions. Savez-vous ce que c'est, la Charte des régions? J'ai pas encore compris.
Ouais, non, moi non plus.
Yasmine, là-dessus, peut-être?
Il y a un site Internet pour ça.
OK, il y a un site Internet. Il y a une application pour ça, comme on dit chez Apple. Hey, merci infiniment, les bulletineuses. C'est ce qui met fin à notre avant-dernier bulletin de l'année.
Bye, bye.
Bye.
Et c'est tout pour La Hausse sur la colline en ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres toute la semaine. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi.
Ce segment politique vous est offert par Article 79 Surveillance parlementaire. Pour être les premiers informés de ce qui se passe sur la colline, faites confiance à Article 79. Résumé des périodes de questions, suivi des projets de loi, décrets, nominations et tous les travaux parlementaires. Voyez les forfaits et abonnez-vous sur article79.com.
Cube Radio.